Voilà, on avait songé à un temps qui nous paraissait essentiel pour cette journée, c'est-à-dire de voir un peu ce qu'il en était à l'heure actuelle déjà des formations, des lieux où on enseigne, on va dire, les métiers, les secteurs des arts de vivre. Et on a le grand plaisir donc d'accueillir Marielle Salvador de l'Institut Life, qui va nous faire une première présentation. Et puis ensuite, Géraldine Carlu, qui nous présentera le campus de qualification d'excellence du Touquet. Voilà, donc Marielle, on est moins dans une table ronde que dans un temps de présentation, d'échange. Et surtout, n'hésitez pas à réagir, évidemment, à ce qui a été déjà dit ce matin, si vous le souhaitez. Alors.
Oula, pardon. Oui, je vais devoir... Bon, là, je vais faire attention. Donc, je suis enseignant-chercheur à l'Institut Life depuis 2019. Avant ça, j'étais dans une business school. Je suis enseignant-chercheur en comportement du consommateur et mes recherches s'axent sur le comportement du consommateur dans un cadre touristique, donc plutôt marketing, hein, bien sûr, touristique. Et culinaire, hein, donc tourisme culinaire. Et puis, je dévie gentiment mes recherches sur les expériences gastronomiques. Mais j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler parce que, à travers cette présentation, voilà, il y a des liens qui peuvent être faits. Juste, merci encore pour ces échanges ce matin. C'était très intéressant. Ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est qu'il faudra quand même peut-être rappeler à nos politiques que Guy Savoy a été nommé à l'Académie des Arts. Donc Guy Savoy, bon, je pense que c'est un chef multi-étoilé. Donc je ne sais pas comment ils vont faire avec ça maintenant, puisqu'il est à l'Académie des Arts. Alors bon, je ne sais pas. Bref. Et puis, pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure au sujet des listes, hein, et des autres guides Michelin, alors peut-être que c'est vrai que nos restaurants français sont peut-être pas très bien classés sur la liste, mais en moins de 5 ans, on a remporté quand même 2 Bocuse d'or, donc David Tissot en 2021 et Paul Marcon cette année. Donc le Bocuse d'or, c'est les Jeux Olympiques, voilà, ni plus ni moins. Et je suis assez bien placée pour le savoir, puisque l'équipe qui a coaché Paul Marcon et David Tissot, alors David Tissot est un ancien de l'Institut, enfin travaillait à l'Institut à l'époque, et donc l'équipe qui coach les Bocuse d'Or France, eh bien, sont chez nous. C'est beaucoup de chefs, hein, donc en général, quand on va à la cantine à midi, parfois on a plusieurs étoiles, on a des mofs, c'est assez intéressant. Voilà, tu claques la bise à un ancien Bocuse d'Or. Bon, salut David, comment vas-tu? Enfin bon, bref. Donc voilà. Donc c'est voilà, c'était la petite parenthèse. Donc on n'est pas peut-être sur toutes les listes, mais on est aux Jeux Olympiques. Voilà. Donc on m'a demandé de présenter l'Institut. Alors l'Institut Life, c'est le nouveau nom. Nous avons basculé il y a 3 ans. Nous étions anciennement Institut Paul Bocuse, mais Paul Bocuse, ça parle de cuisine, alors que dans nos formations, il y avait de l'hôtellerie. Donc il a fallu trouver un autre nom. Et donc ça a basculé sur Life, L-Y pour Lyon, parce qu'on est à Écully. Hein, et puis, voilà, après, c'est pour For Excellence, pour plein de choses. Et donc nous avons aussi basculé, nous sommes aujourd'hui à la conférence des grandes écoles. Donc, pour ceux qui connaissent pas trop ce milieu, eh bien, c'est comme les écoles de commerce, hein, on est référencé. À la conférence des grandes écoles. Donc il y a eu un vrai changement qui a été fait. On est passé d'une école de cuisine extrêmement renommée et d'hôtellerie, hein, voilà, qui avait quand même sa réputation, à une formation aujourd'hui qui est à la fois une formation métier, mais on donne aussi aux étudiants un niveau école de commerce, hein, pour tout ce qui est les matières en gestion. Voilà. Donc, pour vous donner une idée, nous sommes 15 enseignants-chercheurs, on a un peu moins quand même, hein, il me semble, en permanent. On fait bien évidemment appel à des professionnels. On a, vous le voyez, plusieurs nationalités chez nous. Donc, on a des docteurs et des HDR. On a, ce qui fait notre spécificité aussi, un certain nombre de lieux d'application, j'y reviendrai, et on a quand même la chance d'être sur un campus plutôt très beau, avec deux châteaux, un parc qui le sépare. Voilà, quand j'ai mes copines qui passent, elles me disent « on est passé devant ton usine ». Oui, c'est une usine. Mais c'est une très belle usine. Alors, pour aller quand même très vite, on est une association loi 1901, et donc on a... des étudiants qui suivent des bachelors jusqu'à des masters, où on a même un master en coopération avec l'EM Lyon. On est aussi... Alors, on a des lieux d'application. Alors, on a un restaurant saison qui est, à ma connaissance, le seul restaurant étoilé au monde, restaurant d'application, donc qui, au monde, ou en tout cas en Europe. Donc il y a une étoile et qui relaie Château. Nous avons aussi maintenant un lieu à l'EM Lyon qui a déménagé à Écully, qui a quitté Écully pour être à Lyon. On a un hôtel qui est aussi le Royal, qui est Place Bellecour à Lyon, un hôtel 5 étoiles, qui est aussi un lieu d'application, donc qui reçoit des étudiants. On a une résidence. Et puis, en interne aussi, on va avoir d'autres types de lieux qui nous permettent de créer des concepts éphémères, des restaurants pop-up. Il y en a un qui a fermé la semaine dernière et qui sont ouverts au public. Voilà. Donc, il y a aussi tout un volet innovation et développement. Donc là, c'est plus la formation continue avec des catalogues, des formations sur mesure pour des professionnels. Et le centre de recherche. Alors, il y a d'un côté les enseignants-chercheurs en sciences de gestion qui sont du côté gauche, et le centre de recherche qui est plus vieux que nous, enseignants-chercheurs à l'Institut, qui a une quinzaine d'années et qui, lui, regroupe des chercheurs. Ils enseignent assez peu, mais plutôt des chercheurs en anthropologie, psychologie cognitive, sciences des aliments, et donc qui répondent à des appels d'offres français, européens, et qui travaillent sur des sujets bien plus sérieux que les nôtres, par exemple, comment redonner le goût des personnes, le goût de la nourriture à des personnes atteintes de cancer, par exemple. Il y a tout un tas de choses qui sont faites autour de l'obésité, etc. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Alors, donc, nous, on est sur Parcoursup. Donc, on récupère des étudiants de bacs généraux, la plupart. Alors, il peut y avoir des entrées parallèles avec des étudiants qui ont fait des bacs pro, pourquoi pas, en cuisine ou en hôtellerie. Mais on est extrêmement attentif à leur capacité à pouvoir acquérir des connaissances académique. Donc il faut qu'ils aient quand même un background derrière qui leur permette de suivre. Voilà, donc c'est un peu notre souci, puisque vraiment l'idée, ce que je dis souvent, c'est que c'est une business school, mais avec un métier intégré dedans. Voilà. Donc il y a une partie de cours théoriques, il y a bien évidemment des mises en application. Ils ont aussi, en cuisine notamment, des modules de cuisine, que je connais un petit peu maintenant, puisque je prépare un CAP cuisine en candidat libre, et que les chefs m'ont accepté dans les modules que j'arrivais à suivre entre trois cours. Et donc, forcément, ils font des stages. Donc là, ceux qui travaillent en école de commerce, vous voyez, vous retrouvez un peu vos bébés, c'est la même chose. Et donc, voilà un petit peu ce qui fait notre particularité. On a vraiment toute cette, ces 50% théorie, avec des cours qui sont... comme en école de commerce, moi j'enseigne le marketing expérientiel en troisième année, le comportement du consommateur. J'ai un cours en deuxième année sur les marques de chef, puisqu'un chef est une marque, mais une marque humaine, donc elle ne se gère pas de la même manière. Et donc c'est là où je fais le lien avec mes recherches, puisque on finit d'écrire un article sur justement les stratégies de communication des chefs sur Instagram. Eh bien, l'étude a été faite, donc je la vulgarise et je la mets à disposition des étudiants à travers des cours, parce que c'est ce qu'ils vont être demain. Alors, certains me disent, mais on ne veut pas être sur Instagram. Pas de souci, aucune obligation, surtout pas. Surtout, surtout pas. Et donc, il y a d'autres leviers, en tout cas, pour communiquer. On peut être derrière son enseigne et ne parler que de son enseigne. Je dis souvent aux étudiants... Il y a des chefs extrêmement connus, mais qui est capable de me donner le nom du chef de la Tour d'Argent ? Finalement, on connaît la Tour d'Argent, on ne connaît pas le nom du chef. Donc on peut faire les deux si on a envie. Et donc après, 50% de pratique. Donc on a des mises en situation professionnelles. Alors c'est 50% de pratique, donc ils ont des modules, on va dire, de cuisine pour les cuisiniers. Les hôteliers, eux, vont partir aussi, par exemple, à l'hôtel Le Royal et connaître toutes les bases du métier. Hein. Ils commencent par faire des lits et puis après, ils seront au fur et à mesure, ils montent et puis ils ont des postes en troisième année de gouvernant ou gouvernante, par exemple. C'est enrichi par des stages, bien évidemment. Donc on a la chance d'avoir... les cours sont dans des petites classes, ce qui nous permet d'avoir une formation au plus proche de l'étudiant. Et sachant que les classes en laboratoire, c'est maximum 10, 8-10 en général. Et donc c'est presque du sur-mesure. Et ça reste essentiel, puisque rien ne vaut le geste. Je suis bien placée maintenant pour le savoir. Vous pouvez avoir toutes les vidéos du monde. Quand il faut lever un filet de sol, et bien c'est bien d'avoir le chef, à un moment donné, qui vous dit « Mets bien ton couteau, là, qui gratte bien, là, parce que ça va être compliqué. » Donc, l'idée, c'est qu'on les amène au bout de 3 ans. Alors, bien évidemment, on se heurte à... Mais c'est bien normal, c'est la règle du jeu. À une réalité du monde du travail, de ce monde du travail. Donc je parle un peu plus des culinaires ici, que je connais un peu mieux, où vous avez des chefs qui vont vous dire « Il a beau avoir fait 3 ans à l'Institut Life, il passera commis. » Certes, il commencera commis, surtout dans un étoilé, mais il sera commis moins longtemps. Voilà, il va progresser quand même relativement vite, parce que il a été formé pour... et qu'il est capable d'engranger un petit peu plus rapidement. Mais c'est comme les stages d'ingénieur en première année. On passe par un stage d'ouvrier, on passe par la base, et puis après, on grandit plus vite. Alors on a des sections gastronomie, bistronomie, bien-être. On en a aussi qui partent au Japon. Et puis la majorité des troisième année vont faire avec moi un capstone, c'est-à-dire on part d'une idée qui est une simple idée. Je leur organise une séance de créativité avec une méthode qui utilise des gros cubes type Rubik's Cube pour enrichir, on va dire, l'idée. Ça prend en général une journée, j'en ai une la semaine prochaine. Et puis à partir de là, je leur fais faire un business plan. Donc il va finalement recouvrir la quasi-intégralité de tout ce qu'ils ont pu apprendre en gestion pendant 3 ans, puisque sur un business plan, il faut mettre un certain nombre de choses, hein, en marketing, en finance, en juridique, etc. Il crée bien évidemment une offre culinaire avec les chefs, avec les maîtres d'hôtel, puisqu'il y a bien évidemment une offre boisson. Et puis ils ont 300 euros de budget, donc ils n'ont rien, ils n'ont pas les tables et les chaises, ils se débrouillent. Je leur dis, on va faire un argumentaire commercial et vous allez serrer des paluches et trouver des sponsors. Et ils me trouvent des trucs de folie, donc c'est très bien. Il y en a qui se trouvent des âmes de commerciaux à la fin, donc c'est pas mal. Ils ouvrent après 10 jours au public. Et donc sur des concepts qui sont parfois innovants, je leur dis, si c'est pour faire des burgers, c'est pas la peine, vous le ferez plus tard. Vous êtes à l'Institut, faites-vous plaisir. Donc le dernier en date, c'était un dessert dining. C'est des pâtissiers qui ne voulaient pas ouvrir de boutique, parce que ça faisait 2 ans qu'ils ouvraient des boutiques. Donc ils m'ont dit, on veut faire autre chose. Un dessert dining. Un dessert dining, allez-y. Donc c'est un restaurant. Alors pas de dessert, parce qu'on ne pourrait pas, en 5 services, manger que des desserts, mais c'est un restaurant ouvert par des pâtissiers qui vont utiliser des techniques pâtissières pour créer un menu. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément que du sucré. Donc, il peut y avoir du salé, mais en utilisant des techniques pâtissières. Donc, c'est des choses assez bluffantes qui émergent. J'ai eu aussi un projet autour de... Alors, ce n'était pas un accord mets-vins, c'était un accord boisson et mets. C'est-à-dire que le client ne recevait que des boissons, ce qui était extrêmement perturbant. Pour le client, qu'il fallait rassurer. Et puis, en fonction de ce qu'il prenait, un plat lui était proposé. Donc, vous voyez, il y a des choses un petit peu innovantes, mais qui leur permettent de grandir très souvent. Et ça se passe plutôt, plutôt très bien. C'est un petit peu ce qui fait notre marque de fabrique, puisqu'on a la possibilité, les locaux pour faire ça. On a une salle immersive qui permet, pour certains concepts, l'année dernière, on a eu un truc, alors c'est une autre formation, les food service qui sont qui ne sont pas des vrais cuisiniers, qui sont plutôt des commerciaux, mais qui sont là pour vendre un peu du rêve. Et ils avaient créé un concept autour d'Alice au Pays des Merveilles. Et avec la salle immersive que nous avions, ils étaient, donc ils pouvaient utiliser du son, des images, des couleurs, etc., des odeurs pour pouvoir créer un univers un peu Alice au Pays des Merveilles. Donc voilà. Donc la formation en gastronomie et aussi en hôtellerie se transforme. On arrive aujourd'hui à des masters, même dans nos formations. Je trouve que je suis assez optimiste sur les chefs de demain, puisque c'est plutôt des têtes bien faites, c'est des gens passionnés, toujours autant passionnés, et qui pourront peut-être, seront peut-être plus armés que ne l'étaient leurs prédécesseurs. Pour tout ce qui est le business, etc., ils sont peut-être mieux armés. Hein. Alors, on ne le dit pas assez, mais vous pouvez avoir des chefs aujourd'hui qui se cassent la gueule encore, hein, même des étoilés, parce que ça ne marche pas, parce que c'est mal géré, etc. Donc, on espère que, justement, avec ce type de formation, il y aura peut-être moins de ruines comme ça qui existent encore. Voilà. Est-ce que Olivier... Voilà.
Si... Il y a ce petit bruit.
Oui, je ne sais pas ce que c'est.
J'ai demandé.
Alors après, voilà, il y avait peut-être des questions. Ça fait du bip. On ne sait pas pourquoi. Ouais. Après, je vais peut-être l'enlever. On n'a pas besoin de tout ça. Voilà.
Forcément.
Ah non, c'est là.
C'est l'autre.
Ah.
Ah, c'est ça alors.
Et c'est pas. Ouais. Et non, il est branché sur ce secteur. Ouais, je sais pas. Si, si,
c'est ça, du bruit. Parce que là, on vient d'éliminer la tablette et c'est ça.
Ouais.
Et c'est, ça peut pas être le petit boîtier là au milieu.
Non, non, franchement, je l'entends de là, ouais. J'entends de là, ouais.
Ça vient de là-bas. Qui a mis un réveil sous la table ?
Mais ça bip plus, ouais, c'est bizarre. Ah ben ça devait être lié.
Ils sont connectés. Bah, ne bougez plus, alors c'est parfait.
Ouais, ça bip plus, ouais.
Hop, je prends la petite zapette.
Ah, voilà. Ah non, ça
reprend. Ah,
ça reprend.
Ça rebite.
Mais c'est pas bien.
Alors, comment est-ce
qu'on
fait ? Moi, je le sens plutôt par là. Mais
Ah, mais c'est le magnéto, non ?
Oui, c'est ça qui fait le voyage.
Non, ça vient par là.
Ah oui,
c'est bon.
Parfait.
Mais ça vient pas de là.
Mais ça vient de cette zone-là.
Effectivement,
on sentirait que c'est pas la zone. Ça peut pas être les micros, mais presque plus de batterie. C'est la table. Ou alors c'est le joli qui nous espionne.
Bon, en tout cas, le retour est débranché, ça va pas de ça. C'est très bizarre.
Ça, il y avait des questions-réponses peut-être.
Peut-être ou alors après. On garde les réponses parce que le temps est un peu compté.
Ouais, voilà.
Les questions communes après, si vous voulez bien.
Donc je vais prendre le micro. Je prends quel micro ? Je prends celui-là.
Oui, très bien.
Allez, go. Tiens.
Merci beaucoup. On m'entend ? Non, ça marche. Ouais. Donc Géraldine Carlu, je suis la responsable formation du campus des métiers des qualifications d'excellence, tourisme et innovation Hauts-de-France. Alors je représente le campus des métiers. Un campus des métiers, en fait, c'est un réseau d'établissements, un ensemble d'établissements qui forment aux filières du tourisme. Donc quand on entend parler de tourisme, on y inclut le tourisme gastronomie, l'hospitalité, tous les métiers de l'alimentation. Donc on parle d'hôtellerie, de restauration, de tourisme et d'alimentation. Aujourd'hui, en France, il existe 13 campus des métiers qui travaillent pour les filières de la gastronomie, du tourisme en France. Alors, comment ils ont été créés, ces campus des métiers? Ils ont été créés sous le premier quinquennat Macron. Ils ont été écrits par le dispositif a été écrit par Najat Vallaud-Belkacem du ministère qui à l'époque travaillait pour le gouvernement Hollande. Et elle était à l'époque ministre de l'Éducation nationale. Et ils ont été mis en œuvre sous le premier quinquennat Macron. L'objectif, c'est de donner un petit coup de pouce à des filières qui en ont besoin. Donc des filières qui ont été identifiées comme ayant besoin de plus de recrues, des filières qui ont besoin d'avoir plus une évolution des compétences, une montée en compétences de leurs professionnels, parce que la filière a besoin d'un petit coup de pouce, d'un petit coup de fouet. En Hauts-de-France, il existe 14 campus des métiers. Pour différentes filières, on a les filières de l'énergie, l'audiovisuel, il y a pas mal de choses. En France, il en existe 13 de campus autour de la qui travaillent pour la gastronomie. Donc voilà les 13 campus qui sont répartis donc sur l'ensemble de la France. Alors, le campus tourisme et innovation Hauts-de-France, donc qui travaille pour les filières hôtellerie, restauration, tourisme et alimentation. Alors, représente aujourd'hui 33 établissements qui forment à ces filières-là. Donc, des lycées, des universités, mais aussi des entreprises. On a un établissement support, qui est le lycée hôtelier du Touquet. Ça représente aujourd'hui 15 000 apprenants, dont 7 500 apprentis et plus de 50 formations. On a des formations qui vont donc du CAP jusqu'à la thèse. Le campus des métiers est coporté. Alors, il est coporté par la région académique et puis la région Hauts-de-France. Tout à l'heure, on parlait de l'implication des politiques. Eh bien, les campus des métiers sont un outil politique très, très fort. On a une présidence qui est l'UMI, l'Union des métiers de l'industrie hôtelière. Ce sont les représentants de la filière gastronomique. Tout ce petit monde-là travaille autour des filières de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme et de l'alimentation. Alors, l'hôtellerie, on parle d'hospitalité, d'hébergement, la restauration, donc tout ce qui est lié à la cuisine, les métiers de bouche, comme l'alimentation, la boulangerie, la pâtisserie, la boucherie, la charcuterie, le traiteur, et puis toutes les filières du tourisme. Alors, les filières HRT, hôtellerie, restauration, tourisme, HRT. Quelques données chiffrées au niveau national et régional. Alors, il y a plus de 121 000 projets de recrutement de serveurs en café-restaurant en France. Plus de 111 000 projets de recrutement d'aide en cuisine, 67 000 projets de recrutement de cuisiniers en France. Aujourd'hui, en Hauts-de-France uniquement, il y a 63 000 postes à pourvoir. Et on a 15 000 apprenants formés en Hauts-de-France. Donc on voit que c'est une filière qui a besoin d'avoir un petit coup de pouce pour se faire connaître davantage. Donc les campus des métiers sont là pour donner un petit coup de pouce à cette filière. On n'est pas là pour faire à la place d'eux, on est là pour faciliter, encourager. On a un réseau d'établissements. On est là pour rapprocher l'école et l'entreprise. On travaille avec les écoles, on travaille avec les entreprises. Au bout du bout, un campus des métiers est au service des entreprises. Il est au service des entreprises qui ont besoin d'avoir plus de recrues, des recrues qui correspondent aux attentes en termes de compétences d'aujourd'hui et de celles de demain. Donc on va travailler beaucoup sur la montée en compétences des enseignants, notamment à travers les résultats de la recherche. Il y a aussi une donnée importante en Hauts-de-France, c'est le canal Seine-Nord. La mise en service est prévue pour 2030, où là, il va y avoir pas mal de choses qui vont évoluer, notamment autour du tourisme fluvestre. Fluvestre, oui. Donc c'est une association du tourisme fluvial avec le tourisme pédestre, des pistes cyclables, des bases nautiques, et évidemment des lieux d'hébergement et de restauration. On parle de tourisme fluvestre. Alors, le campus tourisme et innovation Hauts-de-France, ben évidemment, il est là pour donner un petit coup de pouce aux entreprises, pour faire connaître les métiers, puis derrière, évidemment, les formations. Donc, on fait pas mal d'actions, en fait. Alors, je vous en ai mis là quelques-unes en images. On a, par exemple, cet après-midi, le job dating virtuel qui est pour les entreprises et les apprenants. On a des entreprises qui ont besoin énormément de faire connaître leurs entreprises, de faire connaître leur métier. Et puis cet après-midi, on organise une rencontre entre des jeunes et puis des entreprises. Donc on a Accor, Barrière, on a de gros groupes et puis après de petites entreprises qui sont là mais qui ont des projets de recrutement, le parc Astérix, Disneyland, etc. On travaille aussi pour faire connaître les métiers et les formations sur pas mal de choses différentes. Alors, on a le concours, par exemple, Arcoroc, qui est juste là-haut. C'est un concours de cocktails connectés. Également, l'intelligence artificielle vient s'inviter au milieu de tout ça. Hein. Donc, c'est un concours de cocktails à la base, mais on y apporte un petit peu d'innovation pour essayer toujours de développer les connaissances des apprenants et évidemment des enseignants. Si on veut que les apprenants soient sensibilisés à tout ça, il faut que les enseignants maîtrisent un petit peu les choses. On participe régulièrement à des forums de découverte des métiers, dans le but, avec des professionnels, on essaie toujours d'organiser les événements avec les professionnels, dans le but de faire connaître les métiers, donner l'envie. Il faut savoir que la filière hôtellerie-restauration, donc l'hébergement, hein, la cuisine, l'hébergement et le service, arrivent à avoir des recrues dans leurs établissements, même si c'est de plus en plus difficile. Mais par contre, il y a des données statistiques qui nous indiquent qu'au bout de 5 ans, quand le jeune est diplômé, il change d'orientation. Donc c'est pas anodin. Donc il y a une remise en question également de la filière, de la profession, des professions et des filières. Pour ça, on travaille avec les entreprises. Alors, on essaye de communiquer toujours, hein, donc avec, par exemple, des newsletters où on essaye de montrer un petit peu ce que l'on fait. On travaille aussi sur des plateformes différentes. Alors, par exemple, là, la plateforme Ikigai, c'est une plateforme numérique qui est créée par des enseignants pour les enseignants, dans le but de numériser un petit peu plus les formations. Pourquoi pas en faire une partie à distance de manière de plus en plus importante. On organise également des colloques, par exemple. Là, on avait organisé un colloque sur la cuisine de demain dans le cadre du projet Alimcare, qui est un projet sur l'alimentation saine, durable et favorable à la santé. Alors, vous voyez pas mal de logos hein, sous les affiches, parfois. Mais tout simplement parce qu'un campus des métiers, il ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Il faut qu'il aille chercher du budget pour faire tout ça. Et pour ça, on répond à des appels à projets. Dans le cadre de France 2030, on va chercher des appels à projets. Donc on est lauréat d'un PIA, Programme d'investissement d'avenir, financé à 50%. On est lauréat d'un DEFINUM, financé à 70%, qui permet de développer la plateforme Ikigai. Et puis, on est lauréat également d'un AMI CMA, Compétences et métiers d'avenir, sur justement l'alimentation saine, durable et favorable à la santé, donc portée par l'université Unilassalle, qui est une université privée en Hauts-de-France. Le rapprochement de l'école et de l'entreprise est majeur dans tout ça. Donc évidemment, on travaille avec eux. Parce qu'au bout du bout, l'objectif, c'est de leur apporter des recrues. On a par exemple là-haut, en haut à droite, le groupe Barrière. On a un palace 5 étoiles qui se trouve au Touquet, le Westminster, qui a beaucoup de mal à avoir de jeunes recrues. Les jeunes n'osent pas franchir la porte d'un palace parce qu'ils se disent « non, c'est pas pour moi, c'est pas ma classe sociale, j'y connais rien, je peux pas aller travailler là-dedans ». Et l'objectif, justement, c'est de travailler avec les professionnels pour bien essayer de rapprocher l'école et l'entreprise, d'encourager la jeunesse. Donc on a vraiment travaillé avec le groupe Barrière sur du vocabulaire, la manière d'accueillir la jeunesse. Et puis ben, maintenant, ils accueillent régulièrement des jeunes de zones géographiques très éloignées, très rurales, ou qui vivent beaucoup de difficultés. On a des jeunes parfois qui ce jour-là n'avaient jamais vu la mer. Ils ont 17-18 ans, ils n'avaient jamais vu la mer. Et donc, enfin, voilà, c'était aussi l'occasion de leur montrer la mer. Mais il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas cette ouverture. Leur ouvrir le champ des possibles leur permet derrière de se dire en fait, si je peux postuler, en fait. Et puis, en fait, j'ai beaucoup de qualités qui sont attendues. Et donc, ça leur a permis au groupe Barrière de recruter plusieurs jeunes, plusieurs apprentis, plusieurs stagiaires. Et maintenant, il y a un rythme qui est instauré avec plusieurs écoles qui sont membres du campus. Ils poussent la porte régulièrement du Westminster pour venir dans l'établissement, le visiter, faire connaître à la jeunesse justement cet établissement, et puis leur dire voilà, vous pouvez vous aussi travailler là-dedans. Des concours, des job dating, des camps de l'innovation, toujours pour approcher l'école et l'entreprise. On travaille aussi des formations avec les enseignants, pour les enseignants, avec les entreprises, toujours dans le but de faire connaître les métiers, les formations. On a le projet des Alim Lab également, qui est en train de se monter dans le cadre du projet Alim Care, qui est un laboratoire de saveurs et santé, et qui a pour but de faire connaître les métiers, les formations autour de l'alimentation et de la santé en Hauts-de-France, à travers justement des cuisines mobiles. On va se déplacer dans les collèges, dans les lycées, dans les écoles primaires, maternelles, parfois aussi dans des foires agricoles, pour faire connaître les métiers et les formations. Et puis également travailler aussi sur la partie alimentation saine, durable et favorable à la santé, puisque c'est la thématique qui est traitée dans ce projet Alim Care. Les relations internationales sont majeures. Aujourd'hui, dans tous ces établissements, on est dans l'hospitalité, la restauration, le service, le tourisme gastronomique. Tout ça, on accueille des étrangers. Il faut maîtriser au moins l'anglais, au moins. Et donc, évidemment, rien tel que l'immersion à l'étranger pour mieux maîtriser les langues. Donc, on a un gros travail à faire autour de des relations internationales. L'apprentissage de l'anglais, c'est un vrai questionnement, parce que en France, on n'est pas toujours très bon en anglais. Comment est-ce qu'on peut faire pour travailler ce point-là? Ça, c'est un gros point d'interrogation sur lequel on aimerait beaucoup avancer. On travaille le volet formation et innovation pédagogique pour ces 15 000 apprenants, et puis évidemment les enseignants, et la montée en compétences des enseignants, c'est majeur, puisque si on veut que les apprenants maîtrisent de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, il faut que les enseignants le maîtrisent également. Donc on travaille avec les enseignants, pour les enseignants, donc avec les corps d'inspection, avec les chefs d'établissement. On peut avoir comme ressenti que les enseignants sont parfois fermés à se former, et pas du tout. On rencontre plus de difficultés avec leurs supérieurs. Et ça, c'est une vraie réalité. Et donc, on travaille avec eux. Le campus des métiers n'a aucune autorité légitime sur tous ces gens-là. C'est que du management transverse. On embarque s'ils veulent, mais s'ils ne veulent pas, on ne les embarque pas. Donc, à nous d'être bons. Donc, on travaille sur des thématiques qui vont correspondre aux attentes des entreprises. Donc, à nous d'aller rencontrer les entreprises, d'aller voir, écouter, observer, de lire, évidemment, de faire de la veille, parce que il faut qu'on repère les attentes d'aujourd'hui, celles de demain. Et puis, on va faire le lien aussi avec les attentes du moment des enseignants, des chefs d'établissement, des corps d'inspection. Donc, ça nous oblige à rencontrer tout ce petit monde-là pour pouvoir poser un diagnostic et répondre vraiment à toutes ces attentes. Et puis, qu'ils puissent participer à la montée en compétences. On est là pour ouvrir les chakras. Tout simplement, on est là pour les accompagner, on ne fait pas à la place d'eux, surtout pas. Et tout ça, on essaie de travailler la montée en compétences à travers les résultats de la recherche. Donc les résultats de la recherche sont majeurs. C'est pour ça, par exemple, que l'on travaille avec UniLaSalle sur le projet Alim Care. UniLaSalle, c'est une université qui est à la base une université qui forme des agriculteurs. Et puis, ils ont depuis 25 ans un pôle alimentation santé. Puisque en Hauts-de-France, on a une particularité, c'est qu'aujourd'hui, nous avons plus de diabète qu'ailleurs, plus d'obésité, plus de maladies cardiovasculaires et plus de cancers qu'ailleurs. On explose les données chiffrées en Hauts-de-France. C'est un problème de santé publique, donc on a un vrai travail à faire là-dessus. On compte bien sensibiliser les apprenants, les futurs professionnels, et donc évidemment, derrière, avant tout, les enseignants et les professionnels avec qui on va pouvoir justement sensibiliser, travailler. Par exemple, je vais dans un restaurant, peu importe s'il est étoilé ou pas. Je suis diabétique, j'aimerais bien pouvoir quand même manger une pâtisserie, me faire plaisir. Est-ce que il existe des pâtisseries qui sont adaptées, qui vont pas me faire monter ma glycémie à gogo? Oui, ça existe. Faut le maîtriser, tout ça, et donc ça s'apprend. Ici, sur le bas, c'était 200 enseignants que l'on a réunis avec Denis Courtiade, qui pourrait être quelqu'un de très inspirant que vous pourriez rencontrer, qui travaille ici sur Paris au Plaza Athénée, qui est également champion du monde plusieurs fois dans les métiers du service en tant que maître d'hôtel et qui est venu parler justement des formations d'excellence et justement de l'exigence qui est attendue dans un palace. Et on vient toujours partager les expériences auprès des enseignants. Alors, on a les professionnels qui viennent à la rencontre des enseignants, mais on a aussi les enseignants qui vont à la rencontre des professionnels. On organise des immersions dans les entreprises, rien tel que d'aller voir les chefs d'entreprise, qu'ils donnent leur petite impression, leur regard, leur point de vue. Ça fait ouvrir les chakras, ça encourage à vraiment éveiller un petit peu les sens, et puis derrière, de montrer un petit peu plus de curiosité. Encore une fois, on facilite, on encourage, on ne fait pas à la place d'eux. J'ai noté tout là-haut, on a 7 thèses financées à 50%, parce qu'un campus des métiers, je vous le disais tout à l'heure, s'il veut vivre, il faut qu'il aille chercher des appels à projets. On est lauréat de plusieurs appels à projets, notamment un PIA, Programme d'investissement d'avenir, où on a 7 thèses financées à 50%. J'ai encore quelques thèses qui peuvent être financées à 50%. Donc, je vous lance un appel. Alors, notre pôle recherche, parce que moi, je ne suis pas enseignant-chercheur, donc notre pôle recherche est dirigé donc, par l'INRENT, l'Institut National de Recherche en Tourisme, qui est en Hauts-de-France, à l'ULCO, et qui représente donc plusieurs universités, qui regroupe plusieurs universités. Et on a à cœur, évidemment, de faire monter en compétence les enseignants à travers les résultats de la recherche. Donc, petit appel, j'ai quelques thèses financées à 50% encore possible. On a des espaces d'innovation partagée, des EIP, sur l'ensemble des Hauts-de-France avec des imprimantes 3D. Parce que derrière les imprimantes 3D, on a les imprimantes alimentaires. Ça peut être aussi l'une des particularités de l'avenir. Donc on les sensibilise, on les forme un petit peu, et puis derrière, ils s'accaparent du sujet ou pas. On a des découpeuses laser. On a un petit peu d'outils innovants qui permettent de sensibiliser toujours au numérique. Et puis évidemment, l'intelligence artificielle s'invite au beau milieu de tout ça, puisque c'est une grande question aujourd'hui, l'intelligence artificielle. Donc on a tout ça. On a également une salle multisensorielle, comme l'Institut Life, dans le Health Lab sur Beauvais, dans le cadre du projet Alimcare. On a une thèse, on se posait la question tout à l'heure, quelles sont les thèses, par exemple, qui peuvent être travaillées en Hauts-de-France. Les Hauts-de-France vont subir, comme beaucoup de régions sur la planète, la montée des eaux, et particulièrement, alors évidemment, avec la mer, mais aussi par les zones marécageuses, puisque on a des zones qui sont un peu plus marécageuses que d'autres, et donc on a beaucoup d'inondations par les terres également, par les sous-sols, il y a des sources qui s'activent un petit peu plus. Et donc, vous en avez entendu parler. On a eu une région très, très sinistrée. Donc là, on a une thésarde qui travaille justement sur les trajectoires d'attractivité résidentielle des petites villes côtières du nord de la France face aux effets du changement climatique. Elle doit présenter le résultat de ses travaux là, d'ici la fin de l'année. Donc voilà. Vous pouvez flash-coder pour vous retrouver sur le site internet du campus des métiers. Et puis, j'ai une petite carte de visite également qui est connectée, que vous pouvez poser sur votre téléphone si vous avez le NFC connecté, ou alors vous flash-codez tout simplement pour avoir mes coordonnées.
Alors le temps file toujours, hein, mais on peut poser quelques questions, effectivement, si vous le souhaitez.
Moi, j'avais deux questions rapides, pardon, pour vous, et c'est vraiment très technique.
Parce que ça enregistre. J'avais deux questions rapides, donc forcément les réponses vont être très techniques. J'aimerais savoir, en termes de structure de recrutement, vos candidats, si vous aviez effectivement, vous l'avez un petit peu évoqué lors de la deuxième intervention, une idée des catégories socio-professionnelles à l'entrée, qui peuvent être effectivement un frein ou pas à aller voir d'autres environnements que leur catégorie socio-professionnelle d'origine. Et puis si on reboucle un petit peu avec la gastrodiplomatie dont on a parlé, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement vos mobilités sortantes, c'est-à-dire les Français qui iraient à l'international, mais est-ce que aussi dans vos profils de recrutement, vous avez des internationaux qui sont recrutés ? Voilà, merci.
Alors pour la première question, alors nous, c'est une école payante, hein, mais on a des bourses possibles. La fondation Pélisson, puisque en fait Pélisson, Gérard Pélisson est à l'origine avec Paul Bocuse de la création de l'Institut, finance toujours plus des bourses chaque année. Je crois que l'année dernière, on avait 150. C'est les parents qui vont payer, hein, bien évidemment. Les étudiants aussi peuvent prendre un crédit, mais en fait, on est sur des filières qui recrutent tellement qu'ils savent qu'ils ont du boulot. Ils n'ont que l'embarras du choix. Il faut quand même le dire. Les nôtres, ils ont un gros problème de liberté, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc il y a certains qui partent à l'international, mais avec l'idée toujours de revenir et de monter leur business dans les 3, 4, 5 ans. C'est ça. Après, pour la deuxième question, on accueille, donc nous on a des classes dites anglophones. Il y en a une qui va ouvrir en pâtisserie à la rentrée, donc 40 étudiants étrangers. Et on a en culinaire, on en a deux. Et en hôtellerie, on en a deux aussi, à partir de la première année. Voilà. Donc on recrute, c'est pour ça qu'il y a autant de nationalités, on recrute aussi des étudiants internationaux qui viennent. Alors en culinaire, ils viennent de certains pays asiatiques, Chine, Corée. On n'a pas de Japonais. Les Japonais ne viennent pas, alors que nous, on va chez eux. Et surtout que la gastronomie japonaise est extrêmement intéressante. Mais la cuisine au Japon n'est pas valorisée. Comme on a un partenariat avec eux, et que j'y suis allée quelques fois, on voit bien la différence. C'est absolument pas valorisé. La cuisine, c'est comme nous, il y a 20 ans. Tu es incapable de faire quoi que ce soit, tu fais de la cuisine. Donc c'est pas très valorisé, donc ils vont pas venir en France faire ça. Je crois que d'ailleurs, le champion mondial de pâté croûte est un Japonais. Voilà. Alors à Lyon, on dit pâté croûte, on dit pas pâté en croûte. Je ne suis pas lyonnaise, hein, donc c'est pour ça que je me permets. Et puis, donc, on a des anglophones, alors on a des Anglais, on a quelques Américains, on a Amérique du Sud, donc c'est extrêmement varié. Amérique du Sud, espagnol aussi, ben voilà, donc des cursus internationaux. Donc oui, il y en a qui viennent. Pour, soyons clairs, hein, pour l'art de vivre à la française, dans tout ce que ça veut dire derrière. On s'est aperçu que, par exemple, Paul Bocuse chez les jeunes générations, était de moins en moins connu. Notre directeur nous a dit un jour, j'ai croisé un étudiant dans le parc, et il m'a dit, est-ce que vous êtes Paul Bocuse ? On était morts de rire. Bref, donc, ils ne viennent pas pour la renommée, enfin bon, ils viennent pour la renommée de l'établissement, mais ils viennent pour apprendre, effectivement, tout ce qu'il y a derrière la cuisine française et le service à la française.
Les campus des métiers, en fait, c'est un réseau d'établissements donc qui forment à ces filières-là. Et donc, en Hauts-de-France, il en existe 33 qui sont membres du campus. Cela regroupe des écoles privées, des écoles publiques, des chambres consulaires. Et donc, enfin, voilà, on a tout type d'écoles, hein, puisque, du coup, tout type de public. Donc, on a des jeunes qui payent leur scolarité, d'autres qui ne le payent pas, parce que ce sont des écoles publiques. Donc voilà, on a tout type de classes sociales qui sont formées à ces filières-là. Les palaces aiment recruter des jeunes qui ne sont pas issus de classes sociales aisées. Oui, j'avais un a priori totalement inversé. Et en fait, ils aiment beaucoup ne pas recruter des jeunes qui soient issus de ces classes sociales élevées, aisées. Donc... Et c'est pour ça qu'on a travaillé autant avec, avec certains palaces. Ça, ça aide quand même pas mal. Oui, tout à fait. En Hauts-de-France, le campus des métiers a son siège, le bureau est au Touquet. On travaille pour les Hauts-de-France et on est en train de travailler sur le développement de Food Lab. Donc, c'est-à-dire des petites antennes qui vont se développer donc sur l'ensemble des Hauts-de-France. On va en avoir une sur la métropole lilloise, une dans le sud de la Picardie et puis une sur le littoral. Et l'objectif de ces antennes territoriales, c'est d'accompagner, on les appelle les Food Labs, c'est d'accompagner justement toujours les enseignants et les établissements avec les professionnels à travailler des masterclass, des petites sessions de formation pour le territoire local, régional, mais aussi international. Toujours dans l'idée de travailler les relations internationales, dans un sens et dans l'autre, on a pas mal de délégations étrangères qui aiment se former à la gastronomie française, aux arts de vivre, justement, de la France, des arts de vivre à la française.
Bon, moi, j'ai une petite question rapide, parce que ça pourrait être l'objet d'une journée d'accélération qu'on pourrait envisager par la suite, dans vos métiers, parce qu'on voit bien que vous ne formez pas forcément au même... à la même gamme de métiers. Est-ce qu'il y a un effet en termes d'image des représentations médiatiques ? Et évidemment, je pense, est-ce que vous avez, vous, depuis 20 ans, un effet de toutes ces émissions qui, à longueur de semaine, de jour, de journée, mettent en scène les gestes, même si il faut bien les apprendre, les gestes, et qu'à un moment, il faut se retrouver face à un formateur, mais qui montre le geste au sens... large, gastronomique, notamment.
Oui, alors pour rebondir sur le geste, et à titre d'anecdote, je crois qu'il y a un chef américain qui a fait fureur sur Internet parce que donc il arrive avec une grosse pièce de viande et il fait ça, schlac, il balance du sel, des herbes, j'en sais rien. Et ça a fait un buzz incroyable et donc il se fait son business avec ça, rien qu'avec le geste. On a quelqu'un chez nous qui a travaillé sur son master sur le geste et l'importance du geste. L'effet médiatique, oui. Ben, nous, on refuse du monde chaque année. Hein. Je veux dire, là, en pâtisserie, on avait deux classes. Donc, ça fait 80 personnes. On a eu 350 dossiers.
Et vous avez vu une évolution
enfin, Oui. Alors, on a vu non seulement une évolution, un changement de profil... C'est ça aussi, les changements de profil. Donc maintenant, on a les fils à papa, maman qui viennent quoi, faire de la cuisine. Enfin, je veux dire, enfin, voilà. Donc il y a un changement de mentalité. C'est plus la voie de garage. C'est clair, net et précis. Donc ça fait des gens encore plus motivés et qui sont bien évidemment influencés parce que toutes les émissions, les chefs, quand on le voit dans les trucs de recrutement, moi, il y en a un qui me sort Cédric Grelet, j'en peux plus. Alors, je me réfrène, je peux plus. Bon, bref, parce qu'il n'y a pas que Cédric Grelet. Mais oui, ils ont été... ça a un gros, gros, gros effet. Mais extrêmement positif sur nos candidats et sur les parents. Voilà. C'est plus concis. Il y a vraiment... C'est génial. C'est valorisé aujourd'hui. C'est valorisant de dire que, ben voilà, on fait de la cuisine, etc. Donc ça, c'est super. C'est une belle récompense. Et autant en pâtisserie... qu'en cuisine. Parce que je vous rappelle que les pâtissiers n'ont pas d'étoile. Hein. Donc c'est le meilleur pâtissier du monde, mais il n'y a pas d'étoile. Donc les récompenses ne sont pas les mêmes. Et bien même la pâtisserie qui a été pendant des siècles le parent pauvre, hein, il n'y a plus d'historien, je ne sais pas, il y avait un historien tout à l'heure, en tout cas en cuisine, voilà, la pâtisserie, c'était, on ne connaissait que le chef de cuisine. C'est fini aujourd'hui. Et vous avez des pâtissiers qui font la renommée de certains palaces parisiens, Perret pour ne pas les nommer, enfin voilà.
Là, voilà. On travaille bien les mêmes filières. Hein. Le campus tourisme innovation regroupe les filières de la gastronomie, donc bien de l'hôtellerie, de la restauration. Donc il y a l'hébergement qui s'invite un petit peu plus. Et puis les notions de tourisme, on parle toujours de tourisme gastronomique. Et il y a une évolution de ces filières-là. Avant, on opposait l'hôtellerie, la restauration et le tourisme. Et de moins en moins, on les oppose, en fait, parce qu'elles travaillent de plus en plus ensemble. Et donc, enfin voilà, il faut surtout plus opposer le tourisme à la gastronomie, aux arts de vivre. Et donc c'est une vraie question, qui fait peut-être suite au questionnement de ce matin. Est-ce qu'on n'y inclurait pas le tourisme ? Parce qu'il y a le tourisme gastronomique avec les arts de vivre à la française. La pâtisserie. Il y a beaucoup de notions qui sont reprises. Et on parle beaucoup en Haute-France d'agritourisme, d'écotourisme, le tourisme régénératif. Les clients ont besoin de ressourcement, ont besoin de revenir à l'essentiel. Ils ont besoin de bien-être. Et donc, on va retravailler cette notion d'excellence à tout niveau. Est-ce que c'est réservé au métier du luxe ? C'est une grande question. Les avis sont partagés, parce qu'avant de venir, j'ai quand même interrogé un petit peu les professionnels. Je travaillais avec eux, donc je les appelais. Donc il y en a qui faisaient des bancs de 20 mètres, en disant « Mais Géraldine, c'est réservé qu'au luxe, c'est une minorité, le luxe. » Et puis d'autres qui disaient « Aujourd'hui, si une entreprise, même un bouillon, par exemple, veut se démarquer, il doit avoir des marqueurs bien spécifiques et on peut retrouver quelques gestes essentiels. Alors, est-ce que c'est de l'excellence ou pas ? C'est une vraie question. En tout cas, ça invite à la réflexion.
Pour rebondir, donc, j'ai été avec deux autres enseignants à l'initiative il y a 13 ans de la création de l'AFMAT, l'association française en management du tourisme. Et j'ai été secrétaire générale de cette asso pendant 9 ans. Il y a toujours eu un track, donc c'est des anciens chercheurs en tourisme. Et on n'était pas qu'en sciences de gestion, on accueille des économistes, des géographes, donc on est hyper ouvert. Et il y a toujours eu un track gastronomie et œnologie. Donc c'est bien évidemment, moi qui suis en tourisme culinaire, je suis une convaincue, mais bien évidemment c'est lié, et même quand on parle d'expérience gastronomique, le passé, on va dire, du client et ce qui va influencer l'appréciation de son expérience est issu aussi du rapport qu'il aura pu avoir avec un produit local, avec un producteur, etc. Ça va influencer l'expérience qu'il va vivre à un moment donné dans un restaurant. Donc c'est lié, quoi. Ce serait peut-être, je ne sais pas si c'est possible, mais effectivement, si on balance tourisme, ça va passer comme une lettre à la poste. Parce qu'avec France Tourisme, en plus...
Oui, il y a une notion aussi. On parle de tourisme régénératif. Le milieu agricole s'invite de plus en plus dans ces notions de tourisme. Il y a des choses aussi à faire de ce côté-là. Le travail à faire avec le milieu agricole et peut être conséquent et intéressant sur l'hospitalité, justement. Les arts de vivre, etc. On fait du lien probablement avec ce qui va se passer cet après-midi.
Oui, parce que dans des pays étrangers, notamment anglophones, vous n'avez pas aujourd'hui un viticulteur qui ne va pas faire aussi ou chambre d'hôte minimum, souvent restaurant, ou accueillir des événements type mariage et autres. Donc c'est complètement... Il n'y a qu'en France où c'est un peu cloisonné, quoi.
Eh ben, on mange déjà un petit peu sur ce dont on va parler cet après-midi. Merci beaucoup.